Alors, christianisme social, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un pléonasme, parce qu'on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir un christianisme qui ne serait pas social quand le commandement principal, c'est aimez-vous les uns les autres, quoi. Mais quand même, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose, on veut insister sur la façon dont le catholicisme, parce que c'est vrai que les orthodoxes ont beaucoup insisté, par exemple, sur l'écologie, que les protestants ont des textes très, très importants, et j'ai même participé à l'un d'entre eux, sur le social, mais qu'il y a que les catholiques, et à l'échelle mondiale, hein, pas simplement à l'échelle française, il y a que les catholiques qui ont véritablement une œuvre considérable. Très volumineuse, genre, c'est pas sûr que ce soit très bon, hein, mais très volumineuse sur la question sociale. Alors, la première partie, vous avez mon plan quelque part. La première partie, c'est depuis la Bible jusqu'à Rerum Novarum, en 1891. Je vais aller très vite sur cette période. Xavier l'a dit, on va surtout insister sur 19, 20 et 21e. Mais quand même, dans l'Ancien Testament, il y a fréquemment des consignes fermes de justice sociale. Et en particulier dans le chapitre 58 d'Isaïe. Mais surtout, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous l'avez sans doute entendu expliquer dans d'autres conférences. Il y a le fameux jubilé juif. Tous les 50 ans, ou plutôt tous les 49 ans, c'est dans le Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13, tous les 49 ans, il y avait quelque chose d'extrêmement original qui consistait à remettre à zéro tous les rapports sociaux dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire des gens qui avaient acquis des vignes, devaient les rendre, d'autres qui avaient des dettes, leurs dettes étaient levées. C'est quelque chose qui était extrêmement important. Alors, je ne suis pas sûr que ça a été appliqué réellement pendant toute l'histoire juive, tous les 49 ans, mais ça a eu une réalité, pas simplement des textes. Dans le Nouveau Testament, alors là, il y aurait beaucoup à citer, mais je me contenterai de Matthieu parce que c'est célèbre. L'évangile de saint Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 40. Vous savez, c'est là où il dit j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous m'avez visité, etc. Qui est une référence du christianisme social. Je voudrais aussi, parce que c'est peut-être un peu plus original, moins souvent citer l'Épître aux Romains de Paul, chapitre 8, où Saint Paul a un développement très, très fort, hein, sur l'écologie. Alors évidemment, il n'emploie pas le mot écologie, mais il dit, c'est théologiquement très, très important, il dit qu'il n'y a pas que l'homme qui a vocation au salut, mais c'est toute la création qui est en souffrance et qui tend vers son propre salut et qui est assurée de son propre salut. Ça reprend d'ailleurs une idée déjà qui est dans la Genèse, le premier livre de la Bible, ou dans le deuxième récit de la Genèse, Dieu demande à l'homme d'entretenir le jardin d'Éden. Contrairement à ce que disent certains, à tous, hein, certains écologistes qui disent que la Bible serait responsable des désastres climatiques, parce que Dieu a donné dans le premier récit de la création la consigne de dominer la création. Oui, il s'agit bien de dominer la création, mais pour l'entretenir. Allons plus loin. Hein, j'irai là, c'est un grand bond hein, dans l'histoire, et j'irai à l'Europe, alors pas l'Europe des cathédrales. On parle beaucoup de l'Europe des cathédrales. C'est vrai que c'est une caractéristique identifiante de l'Europe. Et moi, je préfère parler ici de l'Europe des monastères. Les monastères qui ont joué un rôle civilisateur incroyable, quoi, hein. La consigne de Saint Benoît, ora et labora, hein, prier et travailler. Donc, le travail a autant d'importance que la prière. Et où ces monastères étaient des universités, des hôpitaux, des centres de recherche agronomique. Bref, ça, les monastères sont vraiment une caractéristique de l'Europe, cette époque-là, et a permis à l'Europe d'avoir cette croissance, ce développement, cette historicité que nous lui connaissons. Au XIIIe siècle, voyez, j'hésite pas hein, là, à faire des grands mots, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, bien sûr, alors il est, vous le savez, la référence principale de l'Église catholique dans tous les domaines, mais là, moi je me contente du christianisme social, et saint Thomas d'Aquin emprunte à Aristote ses idées sur la justice, il va plus loin qu'Aristote, hein, mais en particulier justice délibérative, justice commutative, distributive, pardon, et commutative. Mais j'insisterai plutôt sur la création du concept de bien commun, le bien commun chez saint Thomas d'Aquin. Et l'idée que l'Église s'en fait aujourd'hui du bien commun est la même hein, que celle de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Je dirai tout à l'heure quelle précision on peut donner sur cette idée qui n'est pas synonyme d'intérêt général. Au XVIIe, on a saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul est très important quand on parle du christianisme social, quand on parle de justice, mais ce mais n'est pas restrictif, mais il représente l'ancienne façon de concevoir le christianisme social, c'est-à-dire de ne le concevoir que sous forme caritative. C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. Même encore au XXIe siècle, l'Église a une énorme action en matière d'association caritative. Mais je dis que c'est l'ancienne façon de penser le christianisme social, parce que justement, à partir du 19e, à partir de l'encyclique Rerum Novarum, à partir donc de Léon XIII, 1891, on va le voir, là, le christianisme social appelle au changement de société. C'est plus simplement le caritatif. On conserve évidemment le caritatif, mais on parle de justice sociale et d'action pour la justice sociale. Au 18e, n'oublions pas, alors ça c'est pas assez connu, hein, que c'est un évêque, champion de Cissé, Jérôme champion de Cissé, qui a été le rédacteur, ou le rédacteur principal, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Alors on pourrait dire, c'est pas important que ce soit un évêque, parce que sans doute que ça devait être un évêque favorable à la Révolution. Alors évidemment qu'il était favorable à la Révolution, il n'aurait pas été élu rédacteur de cette déclaration. Mais il sera réfractaire. Il n'acceptera pas de s'engager dans la constitution civile du clergé décrétée par l'Assemblée nationale en 1790. Et d'ailleurs, il va s'exiler à cause de ça. C'est un vrai évêque, hein, c'est un évêque fidèle à l'Église catholique qui a rédigé cette déclaration, qui a rédigé principalement, parce que ça a été voté par l'Assemblée, et corrigé, amendé, mais qui a rédigé, qui a été le porte-plume de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. À partir du 19e, alors, je viens de le dire, il n'y aura pas simplement que l'action caritative, il y aura aussi et surtout l'engagement pour changer le monde. C'est l'époque, vous le savez, de la révolution industrielle. Et les principaux précurseurs de cette encyclique révolutionnaire, qui est Rerum Novarum, c'est des gens, je me souviens que citer leur nom, je ne peux pas développer leur pensée, mais des gens comme Lamennais, qui était un prêtre du début du 19e, de Montalembert, qui était un député qui a beaucoup agi en tant que député pour faire progresser le social, en particulier sur la limitation du travail des enfants, toujours début 19e. Je vais insister un peu plus sur Lacordaire, le dominicain, le père Lacordaire. D'abord pour dire que la phrase que je vais citer, qui est assez connue, est extrêmement révolutionnaire. Et pourtant, Lacordaire était en pleine communion avec l'Église, puisque c'est lors de la 52e conférence dans les conférences de Notre-Dame de Paris, c'est lors de la 52e, donc il était le prédicateur officiel, hein, en 1848, qu'il va prononcer cette phrase qu'on n'entend plus nécessairement aujourd'hui, hein, et c'est en 1848. Alors, je la lis, vous la connaissez peut-être. « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » La phrase est forte, elle est bien balancée d'abord au niveau du style rhétorique, mais en plus elle dit bien ce qu'elle veut dire sur le fond. Lacordaire est en désaccord très net avec l'actualité contemporaine de sa société, et il en appelle à l'intervention de l'État et de la loi pour rétablir la justice, pour rétablir une meilleure égalité ou une moins mauvaise inégalité. Alors, ce christianisme social là qui est en train de naître, on n'est pas encore en 1891, hein, on est en 1848, il a des obstacles forts. Il y a d'abord l'obstacle des socialismes athées, qui sont contemporains de cette montée en charge du christianisme social. Il y a en France Proudhon qui dit que la propriété, c'est le vol, en 1840. Vous voyez qu'on est dans les mêmes dates, hein, Lacordaire 1848, Proudhon 1840. Et puis on a Marx, bien sûr, Karl Marx, qui fait un long séjour d'ailleurs en France. Et je voudrais lire juste un passage, parce qu'on n'a pas le temps évidemment de développer le marxisme, il s'agit du christianisme social, mais voici ce que dit Marx dans une lettre à son ami Joseph Vendemeyer en 1852. « Ce que j'ai apporté de nouveau, c'est la preuve, premièrement, c'est Marx qui parle, hein, que l'existence des classes n'est lié qu'à des phases déterminées du développement historique de la production. Deuxièmement, que la lutte des classes aboutit nécessairement à la dictature du prolétariat. Je note au passage que dictature du prolétariat n'est pas une attaque contre Marx. Souvent, on dit, Marx n'a pas dit ça. Si, Marx parle de dictature du prolétariat. Troisièmement, que cette dictature elle-même ne constitue que la transition vers l'abolition de toute classe et vers une société sans classe. » J'en dirai pas plus, parce que je vais justement démarquer de ça le christianisme social. L'obstacle est quand même fort, parce que incontestablement, le socialisme athée a plus de succès au XIXe siècle que le christianisme social, mais à contrario, la doctrine de l'Église va s'opposer à cette idée de Marx sur le fond, en disant, et là c'est la seule citation, je crois, que j'ai mise dans le plan pour qu'elle puisse être relue, la doctrine sociale chrétienne, alors là c'est Jean 23 qui parle, hein, mais ça résume tout le fondement du christianisme social par rapport au socialisme athée, la doctrine sociale chrétienne est partie intégrante de la conception chrétienne de la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas secondaire, son principe de base est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet, fondement, but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie concrète. Ce principe de base protège, continue le pape, protège la dignité de la personne. On est là véritablement au fondement du christianisme social, c'est-à-dire, pour Marx, tout ça se passe dans le sens d'une sorte de logique matérialiste de l'histoire, alors que l'idée du christianisme social, c'est que chaque personne est fondement, but et sujet de toute activité sociale. L'autre obstacle, c'est l'obstacle du capitalisme triomphant. Et là aussi, je vais lire rapidement un résumé de ce capitalisme triomphant qui fait obstacle aussi au christianisme social. C'est une... En 1860, c'est dans les mêmes années, 1860, c'est le président Abraham Lincoln, qui est un président paradoxal, un président qui a été assassiné. Et c'est pas ça qui le rend paradoxal. Ce qui le rend paradoxal, c'est qu'il était républicain, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est lui qui a interdit l'esclavage, qui a aboli l'esclavage, et c'est lui qui a terminé la guerre de sécession. Donc c'est un grand président dont les idées républicaines ne sont peut-être pas les mêmes que les idées républicaines d'aujourd'hui aux États-Unis. Mais alors, capitaliste, il est bien, voici la phrase, « Vous ne pouvez pas créer la prospérité en décourageant l'épargne. Vous ne pouvez pas donner la force aux faibles en affaiblissant le fort. Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l'employeur. Vous ne pouvez pas favoriser la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Vous ne pouvez pas éviter les ennuis en dépensant plus que ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas forcer le caractère et le courage en décourageant l'initiative et l'indépendance, vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire eux-mêmes. » C'est un bon résumé là, du capitalisme, vu évidemment dans un sens positif, ce que Abraham Lincoln ne nous dit pas, ce sont les injustices, les inégalités, que va entraîner cette société capitaliste et que Émile Zola ou Victor Hugo ont cruellement et habilement décrite. Et le christianisme social n'est pas du tout, comme on l'a dit, à mi-chemin entre le marxisme et le capitalisme. Il n'est pas au juste milieu. C'est une fausse idée, ça. La différence, elle est tout autre. Elle n'est pas dans le médian. Elle est dans la spiritualité sociale. L'idée, c'est que, je cite ici saint Paul, le Seigneur Jésus a dit lui-même, et c'est dans le texte, c'est pas moi qui dis le Seigneur, c'est dans le texte, le Seigneur Jésus a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Elle est là, la spiritualité sociale. Elle est là, l'idée que il n'y a pas que l'intérêt qui fait marcher le monde, il y a aussi cette idée qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un paradoxe. Et donc, peut-être une dimension surnaturelle, parce que c'est paradoxal au niveau naturel. Et il y a cette phrase de Saint Jean, il n'est pas, vous la connaissez, il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour ce qu'on aime. Idée là très forte du don de soi. Il n'y a pas de bonheur, pas plus de bonheur que le grand amour, et il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cette idée de don de soi, donc, qu'il ne faudrait pas, on ne peut pas développer longtemps, mais certains vont dire les animaux aussi ont des capacités de don de soi, il ne faut pas confondre. Là, il s'agit d'un don de soi totalement gratuit et non pas d'instinct maternel, comme certains mammifères vertébrés supérieurs, et qui est vite abandonné dans cet instinct maternel, ou d'instinct grégaire, les fourmis par exemple, hein, qui sont en fait des instincts pour la défense de soi, avec comme moyen la solidarité totale avec sa communauté. Donc, le christianisme social introduit une inversion, une conversion, une transvaluation, en grec l'évangile dit metanoia, metanoia, transvaluation. C'est une inversion, le paradoxe du bonheur, il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour ce qu'on aime. Et puis il y a un obstacle interne à l'Église au XIXe siècle. Et oui, tout n'est pas parfait, et là, l'Église est loin de l'être à ce moment-là. Il s'agit de partir, pour comprendre, de la constitution civile du clergé en 1790, qui va être le départ d'un combat qui va durer des générations et des générations, et il n'est peut-être pas fini en 2021, d'un combat entre la révolution et donc la République, tout ce qui s'ensuit, et l'Église. Le départ, le démarrage, c'est la constitution civile du clergé. Et je reviens à Champion de Cissé, là, l'évêque qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et qui était pour la Révolution, qui a voté l'abolition des privilèges. Ce Champion de Cissé, lui, il signera pas la constitution civile du clergé, il sera réfractaire. Et c'est Napoléon, en 1802, dans son concordat, qui va apaiser les choses, mais en fait, sans faire cesser le conflit. Et alors, le conflit rebondit sans arrêt, et en 1864, patatras, petite catastrophe ou grande catastrophe, comme vous voudrez, c'est le syllabus de Pie IX, qui résume, c'est pour ça que ça s'appelle syllabus, qui résume les condamnations de l'Église. Condamnation de quoi? Condamnation de la modernité. Et c'est le pape lui-même qui emploie ce terme. Et alors, c'est bref à lire, hein, parce que c'est effectivement un syllabus, mais alors, on peut dire que c'est une catastrophe quand même. Hein. Par exemple, il est contre la liberté d'expression, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, les évêques, le pape, les catholiques, tout ça, pour la liberté d'expression et de façon militante. Là, le pape, là, 1864, c'est pas vieux, hein, et contre tous ces aspects progressistes. Et donc, il qualifie la modernité de diabolique. Mais il y a un coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre qui va complètement changer les choses à 180 degrés, c'est Rerum Novarum ou Rerum Novarum. On m'a appris à l'école à dire Rerum Novarum, je faisais du latin, mais il semblerait que l'Église dise Rerum Novarum. Bon, on fait comme on veut. En 1891, qui signifie des choses nouvelles, et il s'agit de la révolution industrielle, c'est Léon XIII, qui a été élu pape en 1878, et il écrit la première grande encyclique sociale. Je signale que, je ne pourrais pas les citer toutes, il y en a depuis une vingtaine d'encycliques sociales jusqu'en 2021. La dernière célèbre, c'est Laudato Si de François, qui est considérée comme une encyclique sociale et qui l'est d'ailleurs, et qui a été écrite en 2015. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, Léon XIII ? Eh bien, il fait le maximum, d'abord, avant l'encyclique, il fait le maximum pour réconcilier, et ça, c'est pas facile, l'Église de France, parce que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas eu la constitution civile du clergé. Il fait le maximum pour réconcilier l'Église de France et la République. Et ça, c'est parfois mal reçu, y compris par beaucoup d'évêques français à cette époque. Et puis, donc, il y a cette encyclique où il dénonce, alors, sans langue de bois, c'est ça qui est étonnant, l'injustice sociale, et je cite, la misère de la classe ouvrière. Si je fais cette toute petite citation, la misère de la classe ouvrière, c'est parce qu'il y a l'emploi de la sémantique quasi-marxiste. Jamais l'Église n'avait parlé de classe ouvrière. Elle avait parlé des ouvriers, mais pas de classe ouvrière. Et là, le pape, il sait ce qu'il écrit, hein, et il parle là de classe ouvrière, la misère de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, le pape explique, je le cite, j'en citerai pas beaucoup, hein, parce que le temps est limité, il faut ajouter, dit-il, toujours Léon XIII, la concentration, écoutez jusqu'où il va, hein, entre les mains de quelques-uns, de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents, qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Et de nouveau, emploi du langage quasi-marxiste, prolétaire. Donc on voit bien la virulence, hein, inattendue. L'Église de France va être complètement désemparée. Hein. Sauf quelques-uns, heureusement. Là, c'est vraiment un coup de tonnerre dans l'Église. L'encyclique réaffirme par ailleurs le droit de propriété, hein, comme étant un droit naturel, de même que le droit d'association aussi, hein, pense au syndicalisme. Le droit d'association est aussi un droit naturel. Et la lutte des classes est condamnée, au nom de la fraternité souhaitée. Et il ne s'agit pas simplement d'actions caritatives, vous l'aurez compris, mais Léon XIII appelle les ouvriers à se prendre eux-mêmes en main et à promouvoir des réformes sur les salaires. C'est cité, ce n'est pas moi qui invente. Hein. Le temps de travail, les retraites, etc. Mais Léon XIII insiste sur la recherche de la paix sociale et du bien commun. C'est ainsi que Léon XIII n'exclut pas, et c'est déjà heureux, le syndicat ouvrier indépendant. C'est flou, mais ce n'est pas exclu. Mais c'est à la fin de l'encyclique. Mais il préfère de beaucoup, à la place des syndicats, la reconnaissance des corporations de métiers qui ont été supprimées en 1791 par la Révolution française. Ça se sait un peu, mais pas beaucoup. Hein. La Révolution française est une révolution bourgeoise, ce n'est pas une révolution ouvrière. En 1791, on supprime le droit d'association. Les patrons et ouvriers dans ces corporations se rassemblaient, et c'est ce que souhaite Léon XIII, dans une même association, patrons-ouvriers, dans la même association, qu'on appelle corporation, où se réglaient l'emploi, les salaires, les conditions de travail et parfois les caisses de solidarité. La grève ne sera acceptée qu'un peu plus tard, hein, dans la fameuse lettre de Pie XI au cardinal Liénard, archevêque de Lille, en 1929. Cette lettre est célèbre parce qu'elle est surprenante. Tout le monde s'attendait à ce que le pape arbitre dans le conflit patron chrétien contre syndicat chrétien, que le pape arbitre en faveur des patrons, on avait l'habitude des évêques là-dessus, en France. Or, là, le pape va clairement donner raison au syndicat chrétien, la CFTC, hein, qui a été créée en 1919, 10 ans avant, et les patrons seront sévèrement sanctionnés, enfin sanctionnés moralement. Le pape arbitre, mais il conseille aussi, hein, il n'oublie pas son idée, il conseille à nouveau de créer des commissions mixtes, oui, c'est une idée de corporation, de commissions mixtes entre syndicats patronaux et ouvriers, et ce n'est qu'en 1971, alors là, il faut attendre beaucoup de temps, hein, dans l'encyclique Octogesima Adveniens, pour que le syndicalisme ouvrier indépendant soit clairement accepté, clairement défendu et clairement voulu. Enfin, déjà, la lettre au cardinal Liénard était assez claire dans ce sens. Alors, quelle va être l'attitude des socio-chrétiens après Rerum Novarum? Ben on a là des gens, là encore je ne peux pas les développer tous, mais il y a Albert Demain, il a une rue à Paris, là, du côté du Trocadéro. Albert Demain, 1841-1914, qui est un député qui va faire beaucoup avancer les lois sociales, mais c'est un peu ridicule à notre époque. Aujourd'hui, par exemple, interdire qu'il y ait plus de 10 heures de travail par jour, ou imposer le dimanche comme jour de repos, c'est fort heureusement dépassé. Mais il a dû se battre, le garçon. Il y a aussi René de la Tour du Pin, qui est un ami d'ailleurs de l'Albert Demain, 1834-1924, ils sont fondateurs ensemble des cercles catholiques ouvriers. Je citerai aussi, mais on pourrait en citer une vingtaine, hein, Frédéric Ozanam, 1813-1853, qui a cette phrase qui sera reprise souvent. On ne savait pas que c'était d'Ozanam, enfin, certains ne le savaient pas. Liberté, égalité, fraternité, c'est l'évangile même. C'est Ozanam qui dit ça. Et donc, après l'encyclique, tous ces chrétiens sociaux vont défendre les questions de durée du travail, de création de protection sociale, y compris la retraite, pas seulement la maladie, le travail des enfants. En 1919, donc, création de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, et qui sera jamais, même lors de sa création, qui sera jamais un mouvement d'église. Elle sera toujours indépendante de la structure de toute église. Et par exemple, c'est la CFTC, pour citer juste un exemple, on en parlera plus après, qui va défendre le principe des allocations familiales et la réalité, qui se fera attendre après 1945, alors que la CGT est hostile, mais très hostile à cette époque-là, hein, pas en 2021, est très hostile aux allocations familiales parce que la CGT pense qu'il vaut mieux augmenter les salaires que créer des allocations familiales. On pourrait citer Marc Sangnier qui a créé le Sillon, un parti politique chrétien, un mouvement politique chrétien, mais en France, ça n'a jamais marché. Les mouvements politiques chrétiens n'ont jamais marché. En Belgique, il y a eu longtemps, et encore maintenant, la démocratie chrétienne. En Allemagne, il y a toujours la démocratie chrétienne, elle est même au pouvoir. En Italie, il y a eu jusqu'à peu la démocratie chrétienne, mais en France, ça n'a jamais marché, Il y a eu après le MRP, mais ce n'était pas tout à fait non plus la démocratie chrétienne en elle-même. Donc Marc Sanier crée le sillon, mais ça ne va pas marcher, ça va même entraîner des conflits au sein de l'Église. Il meurt en 1950. Mais en revanche, Emmanuel Mounier, 1905-1950, pauvre, il n'a pas vécu longtemps, qui a créé la revue Esprit, qui existe toujours, a fondé le personnalisme, qui a une très 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 grande influence, mais alors très très grande, sur l'Église et en dehors de l'Église. Emmanuel Mounier est un grand philosophe du XXe siècle, et son idée, l'idée que je retiendrai, c'est pas celle qu'on cite en général, mais c'est celle que je trouve la plus significative. La personne se trouve en se perdant. La personne se trouve en se perdant. C'est le contraire de l'individu, la personne. L'individu se trouve en se cherchant. La personne se trouve en se perdant, c'est-à-dire dans le don total d'elle-même à ce qui est aimé, à autrui. Et ça peut être aussi à un art. Ça peut être, pourquoi pas, à un sport. Mais la personne se trouve en se perdant, en se dépassant elle-même. On va retrouver cette idée dans le Concile Vatican II, 1965, dans la Constitution Gaudium et Spes, joie et espoir. Constitution, ça veut dire conclusion, en quelque sorte. Hein. Ils ont pas le terme, il y a quatre constitutions de Vatican II. Une d'entre elles est Gaudium et Spes, joie et espoir, qui est consacré uniquement à l'économique et au social, et qui va reprendre ses idées personnalistes ajoutées aux idées thomistes. Il y a l'expérience des prêtres ouvriers, mais ça ne va pas bien marcher. Ils sont créés entre 1940 et 1950, c'était peut-être pas la bonne période pour créer ça. Enfin, ils ont été créés entre 1940 et 1950. Ils seront condamnés, leur existence sera condamnée par Pie XII en 1954, puisque ça avait complètement dérivé, et ça sera réactivé par Paul VI après Vatican II, mais réactivé avec beaucoup de guillemets, parce que ce ne sera pas très actif. En revanche, ce qui a mieux marché, c'est entre les deux guerres, la création des mouvements d'action catholique, en particulier l'ACO, Action catholique ouvrière, et la JOC, Jeunesse ouvrière catholique. La deuxième partie, la deuxième partie, c'est de parler de quelques grands principes socio-chrétiens, qui façonnent d'ailleurs, même pour les non-croyants, hein, qui façonnent nos cultures politiques, économiques et sociales. Il y a d'abord la dignité sacrée de la personne humaine. Alors, on retrouve ce principe dans tous les textes ecclésiaux parlant de société, et toujours mis en tête. Et d'ailleurs, ça va être repris aussi au niveau européen, lorsque la déclaration au début des années 2000, déclaration des droits fondamentaux européens, la dignité de la personne humaine est de nouveau en premier. Hein, l'influence est très forte du christianisme social sur l'Europe. Je rappelle que c'est symbolique, hein, c'est purement symbolique, mais le drapeau européen est volontairement et explicitement le drapeau de la Vierge. Hein, cette idée est passée, quoi. Hein, même si aujourd'hui on évite de revenir à ses origines, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il n'est pas question de créer des conflits qui n'existent pas. Ce que dit l'Église, en particulier Jean-Paul II dans Christi Fidelis Laici, en 1989, découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de toute personne humaine constitue la tâche centrale et unifiante de l'Église, et appelle à rendre à la famille, à rendre ce service à la famille des hommes. Alors, qu'est-ce que la dignité de la personne humaine? C'est un mot qui a deux sens en français, et c'est bien ennuyeux. Et je plains les parlementaires ici présents qui ont à parler de bioéthique, parce que le mot « dignité » est complètement pipé. Il y a deux sens différents qui sont justes tous les deux. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont différents. Et il y a la dignité au sens de amour propre, au sens de fierté, au sens de honneur, mais surtout amour propre et fierté. Et dans ce sens, la dignité est liée à mes qualités, à mes performances. Hein. L'amour propre de ce que je suis, de ou prétends être. Et ça peut aller très loin. Monterland, qui est un grand dramaturge du XXe siècle, celui qui a écrit « La ville dont le prince est un enfant », va déclarer à la presse, il était très médiatique, qu'il se suicidera, qu'il se sentira décliné. Ben effectivement, quand il s'est senti décliné, il s'est suicidé. C'est l'idée là, vraiment, de dignité, fierté. Hein, quand je me sens décliné, je ne peux plus... mon amour propre, ma dignité au sens amour propre, m'incline à disparaître. Alors que la conception du christianisme social, c'est que la dignité, c'est même au contraire, à la limite, hein, la dignité est totalement indépendante de mes qualités, défauts, performances. Elle n'est pas relative à ce que je suis ou à ce que je fais. Un vieillard grabataire a autant de dignité qu'un jeune athlète. Un trisomique a autant de dignité qu'Albert Einstein. Albert Einstein a autant de dignité, il ne faut pas non plus inverser les choses, hein, a autant de dignité que n'importe quel homme. Donc c'est une idée totalement différente et qui est profondément chrétienne au sens où l'homme n'est pas digne en lui-même. On est tous, hein, on le sait bien, capable et même faiseur d'indignité. Mais justement, malgré nos indignités morales flagrantes, il y a une dignité spirituelle qui, elle, est sacrée, qui est indemne. Et on accède là directement à la dimension surnaturelle au sens chrétien, quoi. C'est-à-dire que l'homme, dans sa dignité, est divinisé. Il y a une divinisation de l'homme. Saint Irénée disait, le Christ s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il n'y a pas que Saint Irénée, hein, c'est toute la patristique. Et donc là, l'idée de dignité est peut-être, c'est peut-être l'idée force des chrétiens en 2021. Parce qu'il y a plein de non-croyants qui respectent la dignité de la personne humaine. Et il y a hélas des chrétiens qui ne la respectent pas. Mais ce qui est vrai pour les deux, chrétiens ou non-chrétiens, c'est de sentir qu'il y a dans l'homme plus que de l'homme. C'est Pascal qui disait ça. L'homme dépasse infiniment l'homme. L'homme dépasse infiniment l'homme. C'est-à-dire que il y a une dignité de l'homme, une valeur de l'homme qui dépasse les apparences de qualité, défaut, performance de chacun. Et ou bien l'homme a cette dimension spirituelle sacrée, ou bien il n'est qu'un instrument et une marchandise. Donc l'enjeu du christianisme social est très très fort. C'est où la marchandise, l'homme a une valeur relative à ses performances, ou bien l'homme a une dimension sacrée, mais ça suppose la rédemption. Ça suppose que les indignités sont pardonnées. Ça suppose que l'homme a une valeur absolue, a une dignité absolue, parce qu'il est pardonné. Alors, il y a le bien commun après, deuxième valeur importante. Le bien commun, c'est pas simplement, c'est pas la synonyme d'intérêt général. Évidemment, il y a un lien. D'abord, ce qui ne va pas dans l'intérêt général, c'est le mot intérêt. Bien n'est pas synonyme, bien de bien commun, n'est pas synonyme d'intérêt dans l'intérêt général. Mais c'est plus que ça. L'idée du bien commun pour saint Thomas d'Aquin et donc pour le christianisme social, c'est l'idée qu'il faut un effort collectif, un effort individuel et collectif pour que chacun puisse aller au maximum de ce qu'il a envie d'être. Et non pas pour que tout le monde soit pareil. Je vais prendre l'exemple du bac. Hein, il y a eu une période là où on voulait, d'ailleurs on y est arrivé, on voulait que tous les jeunes et 80% d'une classe d'âge accèdent au niveau du bac. Ça, c'est l'intérêt général. Le bien commun, c'est que 100% des élèves accèdent au maximum de ce qu'ils peuvent faire et dans la branche dans laquelle ils souhaitent le faire. Donc, intérêt général et bien commun, c'est pas pareil. Et puis alors, attention à Rousseau, hein, qu'on nous met à toutes les sauces. Hein. Je vous rappelle que Rousseau, dans le contrat social, il demande l'aliénation des libertés individuelles. L'aliénation, c'est lui qui emploie ces mots, des libertés individuelles au profit de la collectivité. Donc on est loin là, de l'intérêt général de Rousseau. Troisième idée que je voulais citer ici, c'est le principe de subsidiarité, peut-être, oui. Le principe de subsidiarité, alors c'est un peu compliqué parce que subsidiaire, employé dans le sens commun, ça veut dire secondaire. Quand on dit il a posé une question subsidiaire, une question secondaire. Ce n'est pas le sens premier de subsidiarité. Il n'y a qu'à regarder les dictionnaires. L'idée de subsidiarité, c'est l'idée que la décision doit être prise au plus bas de l'échelle hiérarchique et sociale où elle peut être prise. Les décisions doivent être prises dans la proximité de ceux qui sont concernés. Et l'idée est très importante. Il faut bien reconnaître que celui qui l'a rendu populaire en dehors de l'Église, c'est Jacques Delors, qui dans un discours, alors qu'il était depuis un an président de l'Union européenne, de la Commission, Jacques Delors a fait un discours où il a répété 6 fois subsidiarité. Et les journalistes entre eux et demandaient à leur rédaction par téléphone qu'est-ce que ça veut dire de ce que ça veut dire subsidiarité. Et la subsidiarité, là, pour Jacques Delors, c'était le fait que chaque pays devait gérer les questions qui lui sont propres, qui peuvent être gérées à l'échelle nationale. L'Europe ne doit s'occuper que de l'échelon global sans s'occuper de l'échelon particulier. Ça, c'est la subsidiarité. Et puis, la quatrième valeur à laquelle je voulais faire allusion, c'est la destination universelle des biens. Cette idée de destination universelle des biens, elle est depuis longtemps et depuis saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, je regarde l'heure, mais saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui disait, ça va loin, hein, qu'il était normal qu'un voleur vole et qu'on ne doit pas le condamner s'il a volé parce qu'il avait vraiment très faim. L'idée de saint Thomas d'Aquin, je crois bien qu'il est le numéro un de la pensée chrétienne dans tous les domaines, alors numéro un après la Bible, hein, mais numéro un de la pensée chrétienne dans tous les domaines, y compris dans le christianisme social. Eh bien, l'idée de destination universelle des biens, ça veut dire que on est bien propriétaire de sa propriété. L'Église défend bien la propriété privée, y compris des moyens de production et d'échange. Mais elle insiste sur le fait de dire que les propriétaires ne sont que des gestionnaires et que la propriété privée doit être mise au service de l'ensemble de la population, de l'ensemble de la communauté nationale, voire international. Il y a eu en France, là, je crois que c'est en 2019, il y a eu, je cherche si je trouve la référence, mais peu importe, il y a eu une tentative, alors elle n'a pas avorté, mais enfin presque, d'introduire dans le Code civil, ça fait tout un débat à l'Assemblée nationale, ça et au Sénat, ça, hein, ceux qui sont là le savent, pour que l'entreprise n'ait pas simplement pour but, comme c'était le cas, hein, écrit dans le Code civil. Je cherche le numéro de l'article du Code civil, je le trouverai peut-être tout à l'heure, là, je ne trouve pas dans mes notes, mais peu importe le numéro. Hein, l'entreprise n'était faite que pour faire du profit. C'est dans le Code civil. Et en 2019, le président de la République et le gouvernement ont nommé des commissions. Nicole Nota en a animé l'une d'entre elles pour voir si on ne pourrait pas donner un autre but, peut-être le profit, oui, mais un autre but. Et ce qui avait été avancé par le président de la République, c'est justement l'idée de bien commun. Puis quand c'est passé dans les commissions parlementaires, c'est devenu intérêt général. Et puis, ça a été ni l'un ni l'autre. C'est simplement, c'est pour ça que je vous dis, c'est un demi-échec. C'est une recommandation faite aux entreprises de tenir compte de l'environnement social et de l'environnement naturel, tenir compte de ce qu'il y a autour d'elles, sorte de prolongement de la responsabilité sociale des entreprises, sans que ça soit bien nettement marqué. Mais 2019 n'est pas la fin de l'histoire et les choses peuvent avancer. Alors, la troisième et dernière partie, c'est le christianisme social au XXIe siècle, c'est-à-dire au XXe et XXIe siècle. Il y a deux grandes modifications. D'abord, la théorie de la libération, qui a joué un rôle très important en Amérique latine dans les années 70, ça a pris tout son essor. Il y a même l'un des philosophes de cette philosophie de la libération, de cette théologie de la libération, qui a eu le prix Nobel, hein, qui a eu le prix Nobel de la paix. Mais il y a eu peut-être des dérives, en particulier il y a eu en 72 le manifeste des chrétiens pour le socialisme, là ça allait encore plus vers le marxisme. Et le pape Jean-Paul II et son adjoint chargé de la doctrine et de la foi, qui était le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, interviennent vivement, interviennent vivement contre cette théologie de la libération, beaucoup trop marxisante, et le conflit va durer un moment, jusqu'à ce que, alors là il y a des surprises, jusqu'à ce que Ratzinger, qui était à l'offensive hein, contre la théologie de la libération, devienne Benoît XVI, et là, il change complètement d'attitude, et il fait entrer dans la doctrine sociale de l'Église l'idée la plus importante de la théologie de la libération, à savoir l'option préférentielle pour les pauvres, qui est devenue un concept officiel de l'Église catholique, alors que c'était, il ne fallait surtout pas le prononcer ça, avant que le cardinal Ratzinger devienne le pape Benoît XVI. Donc, il y a quand même des curiosités. Et l'autre grande nouveauté, alors ça c'est le 21e, c'est le pape François, qui a des positions extrêmement radicales. Alors, ce n'est pas du tout, et je sais à qui je m'adresse là, ce n'est pas du tout le radicalisme islamiste, hein, je ne sais pas quoi, là, ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a de radical chez le pape François, c'est sa position politique, économique et sociale par rapport au libéralisme. Là, vraiment, les phrases sont très fortes, hein. Par exemple, non à l'argent qui gouverne au lieu de servir, non à la disparité sociale qui engendre la violence, revoir, je pas à relire mes notes, excusez-moi, voilà, l'autonomie des marchés, la mise en cause donc de l'autonomie des marchés et de la spéculation financière, c'est le paragraphe 202. Donc on a dans Laudato si, on a dans Joie de l'Évangile et dans d'autres textes, Fratelli Tutti, qui est dernier texte du pape en 2020, on a des phrases très fortes hein, contre ce qu'il appelle le paradigme techno-économique. Paradigme techno-économique, c'est l'alliance du capitalisme en recherche du profit et de la technologie contemporaine, informatique, robotique. Là, il est vraiment opposé. En revanche, il défend les entrepreneurs. Hein. Il défend énergiquement les entrepreneurs, mais pas les multinationales et pas la spéculation boursière internationale. Il va même au paragraphe 179 de Laudato si', à parler d'appel. Il fait appel à la pression de la population. Ça va loin. Hein. Il fait appel à la pression de la population pour que les choses changent. Mais, il y a toujours les mais, hein. Mais quand on lit qu'est-ce qu'il veut dire par pression de la population, on s'aperçoit qu'il s'agit beaucoup plus que de dire que chaque petite communauté doit pouvoir faire quelque chose avec ce qu'elle a. Il est par exemple un militant du microcrédit. Et c'est ça la pression sociale essentiellement. C'est bien les manifestations aussi, hein. Mais en priorité, la pression sociale, c'est de ne pas attendre que la politique, que les syndicats, que les entreprises fassent quelque chose, c'est de s'y mettre soi-même et de faire soi-même quelque chose. Alors il sera accusé par quelques évêques américains. Et beaucoup de laïcs, ils seraient accusés de communisme, là, il ne faut pas pousser quand même. Hein. Ce qu'ils demandent, et je termine par ça, ce qu'ils réclament, c'est l'idéologie intégrale, pardon, l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est une idée à la fois profonde et astucieuse. Alors, astucieuse, c'est une petite réserve, un peu, hein, par rapport à profond, parce que ça veut dire qu'il y a une astuce. Mais je maintiens, elle est profonde, elle reprend l'idée de l'écologie, entre parenthèses peut-être un peu tard, hein, mais elle reprend l'idée de l'écologie, puis alors elle reprend de façon radicale. Hein, je n'ai pas le temps de le détailler, mais vous l'avez peut-être lu. Ça a eu un très grand succès, hein, Laudato si'. Mais l'écologie intégrale, c'est aussi de tenir compte de la dimension spirituelle de l'homme et qu'il n'y ait pas la volonté, par exemple, d'être contre la peine de mort des criminels, et il est contre la peine de mort des criminels. Mais on ne peut pas être en même temps pour la peine de mort des innocents. Il pense aux embryons et aux fœtus. De même, il pense à un équilibre qui, je crois, un équilibre, une grande sagesse, ce sera ma dernière phrase, c'est une citation. Une citation de paragraphe 210 de Laudato si'. Et je vous promets que c'est la dernière phrase. Il parle d'équilibre écologique. Alors, au niveau interne avec soi-même, y compris son corps, équilibre écologique au niveau solidaire avec les autres, équilibre écologique au niveau naturel avec tous les êtres vivants, et équilibre écologique au niveau spirituel avec Dieu. Voilà la phrase qui peut me servir de conclusion. J'ai mis qu'une heure, mais on avait commencé avec 10 minutes de retard. Merci de votre attention. Vous êtes courageux quand même, hein, parce qu'il faut subir ça en visioconférence. Merci beaucoup. Allez-y, aux questions maintenant.